Nous sommes mercredi 5 novembre 2025 et vous écoutez le Dojo Bar. Ah non, au secours! Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Et bonsoir la magie du montage donc. C'est quand même... L'intro va être dure à rattraper, hein. Je vous le dis, ça va être très très compliqué, mais c'est pas grave, on va se dépatouiller. Eh bien, ce soir, on va parler gros sous-sous, on va parler du prix des consoles et du prix des jeux. C'est un sujet que nous avions déjà abordé un peu sporadiquement, notamment à la sortie de la Nintendo Switch 2, où il y avait les histoires de « Putain, mais Mario Kart 3, les 90 balles, ça fait quand même un peu chier ». Donc on avait pas mal parlé à ce moment-là, mais on n'avait pas forcément fait un sujet bien dédié, surtout qu'on en a reparlé... il y a deux semaines avec les histoires de monnaie virtuelle, on en a reparlé avec les histoires de Microsoft, voilà, on s'est rendu compte qu'on s'est un peu étalé pour essayer de regrouper un petit peu les choses, en fait, de faire un sujet bien carré, complet, où on parle de prix une bonne fois pour toutes, et où on n'en reparle plus derrière. C'est l'idée, et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment dans l'industrie, et pourquoi effectivement on a des prix dont on a l'impression qu'ils s'envolent, même si on voit que c'est un peu une illusion. Ensuite on va parler de Katamari Damacy, parce que ça fait plaisir.
Après avoir parlé de sujets difficiles et graves, un peu de légèreté dans ce monde de brut.
Voilà, quelques kilogrammes de brutalité dans ce monde de finesse. Parce que voilà, on s'est tapé un bon petit délire sur le sujet. Et en plus, nous avons maintenant les deux premiers épisodes de Katamari Damacy, plus le tout dernier, qui sont disponibles sur Nintendo Switch. Donc en gros, on a le meilleur pratiquement du jeu qui est disponible sur Switch. Et ça fait quand même très très plaisir. Mais nous allons commencer tout de suite par notre petit tour de table d'actualité. Oui, c'est un petit tour de table d'actualité, il y a très peu d'actualité en ce moment. Il y a pas mal de jeux qui vont sortir, mais c'est plutôt courant novembre. Donc voilà, je vais donc laisser la parole à Antix pour la nouvelle application mobile de Nintendo dans laquelle il y a une petite bonus feature dégotée par Méduse.
Bah alors, c'est une application dont l'intérêt principal, en fait, c'est de pouvoir voir ses temps de jeu. Cette application regroupe tous les jeux auxquels vous avez joué depuis la 3DS, c'est pas mal, et vous pouvez voir les temps de jeu que vous avez dessus, et notamment trier par nombre d'heures jouées. Donc voilà, moi j'ai appris que j'avais joué plus de 500 heures à Super Smash Bros Ultimate. Là, je suis toujours mauvais à ce jeu par rapport au reste de la scène compétitive, c'est ma joie.
Et nous avons appris que Méduse avait passé plus de 40 heures sur le Miiverse. Ça fait quand même plaisir.
C'est pas mal. Rip le Miiverse, paix à son âme. Donc voilà, ça c'est l'intérêt principal de l'application. Alors à côté, il y a quand même un petit bonus qui est en fait des achats in-app. Achats in-app directement sur le store de Nintendo pour acheter des jeux pour sa console. Ah oui, c'est l'application Nintendo Shop, on a oublié de préciser le nom. Hein.
Oui, c'est bon, globalement, c'est l'eShop. C'est l'eShop, mais disponible sur Android. Exactement comme la version, je crois que c'est Steam qui a ça.
C'est Steam qui a une version API, mais je crois qu'en fait, ils en ont tous une. Même le PSN doit en avoir une. Voilà. Non, mais c'est bien, en fait, qu'on ait oublié de dire le nom de l'appli, ça m'a permis de faire ma blague jusqu'au bout.
Effectivement. Bref, deuxième petit sujet, ça fait 4 mois que la Nintendo Switch 2 est disponible et elle s'est déjà écoulée, selon Nintendo, à 10,2 millions d'exemplaires. Donc ça va, c'est pas trop mal parti. Ce qu'on disait un tout petit peu en off, c'est que globalement elle a déjà dépassé la Dreamcast, la Saturn et quelques autres consoles sans intérêt de Sega, donc ça paraissait être normal, c'est la base.
La Virtual Boy aussi, a priori.
Virtual Boy, oui. Elle est en passe de dépasser la Master System, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on va dire que tout cela est sur les rails.
Et accessoirement, en 4 mois, c'est le record de vente le plus rapide pour une console, qui était avant détenue par la PS5.
Ah, parce qu'elle est sortie, la PS5.
Ah oui, t'as vu, hein.
Elle a augmenté de prix.
Elle a augmenté de prix, mais ça on va en discuter après. Là, il y a encore eu une augmentation de prix il n'y a pas si longtemps que ça. Autre fait intéressant, là l'information vient directement de Nintendo, 84% des possesseurs de Switch 2 étaient des possesseurs de Switch 1. Donc ça veut dire que tu as grosso modo une personne sur 5 qui a acheté une Switch 2 sans avoir de Switch 1, ce qui est finalement assez peu, et t'as grosso modo 4 personnes sur 5 qui ont acheté une Switch 2 en ayant été possesseur ou en étant toujours possesseur d'une Switch 1.
La question, c'est qui sont ces 2 millions de personnes qui ont acheté la console alors qu'ils n'avaient pas de Switch 1?
Alors là, c'est une très bonne question. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les 8,4 millions de personnes qui l'ont acheté alors qu'ils avaient déjà une Switch 1. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont upgradé.
Bon, c'est pas surprenant, ça.
C'est quand même un petit peu surprenant, vu que... Alors, surprenant et pas surprenant. C'est, je trouve, la base de fans de Nintendo, 10 millions de personnes, ça me paraît crédible. Je rappelle que la Wii U, c'est 13 millions d'unités vendues. On peut considérer qu'elle a été vendue quasiment qu'à des fans. On va se le dire.
Probablement.
Donc voilà, les gros NSX, c'est à peu près 13 millions de personnes, donc il y a 10 millions de personnes qui ont acheté la Switch 2, honnêtement je tombe pas de ma chaise, à partir de 20 millions, là on commence à discuter. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Après, la Switch 2 finalement a relativement peu de jeux exclusifs, au sens où on a eu les deux Zelda de la Switch qui sont ressortis en version 60 FPS, 4K, tout ça, c'est bien et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. On a eu Kirby Star Allies, on a quelques gros jeux de la Switch 1 qui se sont retrouvés upgradés sur la Switch 2. On a quelques exclusivités, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Cyberpunk au sens exclusivité Nintendo, hein, au sens... Voilà. Que tu n'as pas sur Switch. Il y a quelques très gros jeux comme ça. Il y a un Demon X Machina 2. Bon, qui a pas apparemment eu un gros succès, mais...
Je savais même pas qu'il était sorti, tu vois.
Bah, il est sorti. Effectivement, c'est pas foufou. Mais tu vois, la sélection de jeux est finalement, entre guillemets, un petit peu réduite. Mais il y a la rétrocompatibilité Switch 1 améliorée, qui a peut-être aussi pesé un peu dans la balance. Il y a peut-être tout un tas de gens qui se sont dit, bah en fait, oui, profiter de ce jeu à 60 FPS, c'est cool, donc on va le faire.
Il y avait quand même, moi je pense, parmi les possesseurs de Switch 1 que je connais, qui sont un peu des joueurs un peu férus comme nous, t'en as beaucoup qui commençaient à dire, bon, la Switch, on sent qu'elle commence à accuser le poids des années, les gros jeux indés, quand ils sortent dessus, ils sont un peu à la ramasse, on voit toujours les petits soucis de résolution, des trucs qui étaient... Ok, il y a 8 ans, quand elle est sortie, les gens... il y en avait déjà qui étaient un peu exigeants là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a le gap qui s'est quand même pas mal créé avec les nouvelles consoles. Même, oui, elles sont sorties, la PS5 et la Xbox Series. Et je pense que c'est aussi un atout, mais après, tu vois, tu dis, il n'y a pas beaucoup de jeux pour l'instant, je regarde la fin de l'année. On a eu Pokémon Zelda, qui est aussi sorti sur Switch. Il y aura Metroid Prime 4 qui sort aussi sur Switch. Et en exclu, tu vas avoir le Real Warriors et le Kirby Rider. Donc quand même, c'est quand même des sorties intéressantes. Pour une première année, c'est pas dégueu. Hein.
C'est ça, mais je rappelle que la première année de la Switch, on avait quand même eu un Zelda, un Mario.
Oui, et après, on n'a pas eu de Zelda et de Mario pendant 6 ans.
C'est vrai. Après, on a de nouveau, on va avoir un Mario, puisqu'on va avoir... on n'a pas un Mario Odyssey Remix ou quelque chose comme ça qui sort l'année prochaine.
Mario Wonder,
Mario Wonder Switch 2. NS2 édition.
Oui, ouais, il y a un mode multi, quoi. Enfin, il y a un mode de jeu supplémentaire, je crois.
C'est ça. Mais c'est vrai que bon, c'est peut-être un petit peu léger, on va dire. Mais c'est vrai que pour, pour le line-up vraiment exclusif Switch 2, je trouve que ces 10 millions, c'est déjà très bien. Après, si tu prends en compte effectivement les versions améliorées, c'est vrai que c'est quand même assez cool, quoi. T'avais acheté ton Hogwarts Legacy sur Switch, il est un petit peu compliqué. Bah, pour 10 balles, seulement, entre guillemets, pouf, t'as une upgrade Switch 2. Voilà, je trouve ça assez cool. En vrai, ça te permet de rejouer à un jeu que t'as apprécié dans des conditions bien meilleures. Pourquoi pas? Je trouve qu'il y a quand même quelques bonnes idées de ce point de vue-là. Bref, allez, on va se faire une première petite pause musicale et j'ai envie de vous dire... Voilà, je précise que ça a été extrêmement compliqué de choisir juste deux morceaux dans la bande originale de Katamari Damacy, parce que c'est une bande originale qui est absolument génialissime. Ça fait partie
de très gros. C'est une heure de bonheur. C'est une heure de bonheur. Incroyable. Et qui s'écoute bien. S'écoute bien hors du jeu, en fait. On en reparlera après.
Tout à fait. On en discutera après, en tout cas, on va s'écouter ça. C'est composé par Yuu Miyake. Il y a plein de compositeurs sur la bande originale de Katamari Damacy, on en parlera aussi après du pourquoi est-ce qu'on a autant de gens qui ont composé pour ce jeu. Et en attendant, ça dure juste une toute petite minute 20, et on se retrouve tout de suite après. No.
This is Corneria, Pepper speaking. Congratulations on a job well done.
Roger, I'm heading back to Corneria.
Et nous voilà de retour.
Retour!
Et donc on va parler prix, on va parler gros sous. Voilà, on a eu récemment, on en a déjà parlé à travers la Xbox, à travers la PS5 aussi, on en avait juste un tout petit peu évoqué, mais en fait on a quelques angles morts là-dessus. On a eu récemment des augmentations de prix, des augmentations de prix des jeux, des augmentations de prix des consoles, des augmentations de prix des abonnements, alors, je pense au Game Pass, mais pas que. Il y a quand même Nintendo qui nous a sorti
l'extension pigeon.
L'extension pigeon, l'extension je paye l'ISF. Voilà, donc tu as l'abonnement standard qui lui n'a pas trop bougé, mais dans lequel finalement t'as un peu la base, tu peux jouer en ligne, t'as accès à la Super NES online, t'as accès à quelques vieilles consoles NES, Super NES et ainsi de suite. Et derrière, et ben en fait, si tu veux accéder aux trucs un peu nouveaux, GameCube, N64, Game Boy Advance, tu veux pouvoir profiter des DLC gratuits, tu veux des trucs comme ça, bah faut acheter le pack Extension Plus. Et c'est aussi une manière de monter le prix.
Ouais, alors après, c'est monter le prix, alors aussi avec des choses qui sont déjà pas rentabilisées, mais qui seraient payantes, qui sont payantes autrement, notamment avec des DLC. Pendant longtemps, il y avait les DLC Mario Kart qui étaient disponibles. Je crois que c'est encore le cas. T'as le DLC de Splatoon 2, t'as un DLC d'Animal Crossing aussi, il me semble, dedans. Donc il y a aussi... c'est un peu un pack... t'as la même chose, en termes d'expérience de jeu en ligne, mais t'as des trucs en plus. Ce qui est un modèle que faisait Sony depuis le PS Plus sur PS3, de mémoire.
Oui, c'est ça. T'avais le PS standard, t'as l'abonnement standard, ce qui te permet de jouer en ligne en gros, puis t'as l'abonnement PS Plus dans lequel t'as un petit jeu bonus de temps en temps, un truc à l'essai, et ainsi.
À l'époque de la PS3, le jeu en ligne était gratuit. Je crois que c'est en fin de vie, ils ont proposé le PS Plus, donc pour avoir une meilleure expérience. Je crois que notamment, c'est des jeux gratuits tous les mois et des réductions, si mes souvenirs sont bons. Peut-être d'autres trucs aussi que j'ai un peu oublié. Et avec la PS4, ils l'ont rendu payant obligatoire. Donc tu as le PS Plus par défaut. Et je crois que dernièrement, ils ont fait un peu un truc à la Microsoft, à l'époque, qui avait aussi son Xbox Live Gold, peut-être avec des versions supplémentaires. Mais en tout cas, c'est Sony, maintenant, il y a genre 2 ou 3 tiers d'abonnements en ligne, plus ou moins chers. Qui sont, je crois que facile, moins cher doit être à 40 ou 50 euros l'année.
Oui, je crois que c'est ça, mais c'est vraiment... En gros, tous ces trucs-là ont augmenté. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que finalement, tu reviens à l'époque de la... Soyons très vieux jeux, tu reviens à l'époque de la Wii, on parlait de la PS3, mais voilà. Sur PS3, le jeu en ligne était gratuit. Sur Wii, le jeu en ligne était gratuit. Et chez Microsoft, le Xbox Live n'était pas gratuit, il n'a jamais été, ça a toujours été un abonnement, mais il était très peu cher.
Bah, le jeu en ligne était payant, oui. Par contre, l'accès à la boutique, évidemment, est gratuite.
C'est ça, le Xbox Live, le jeu en ligne était payant, a toujours été payant chez Microsoft. Ils ont toujours assumé le fait que c'était payant, mais c'était vraiment très peu cher. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus cher. On a aussi les augmentations de prix de console. Alors, c'est vrai qu'on a parlé longuement de Microsoft la dernière fois, qui a augmenté le prix de la Series X. Alors, de la Series S, je crois pas, mais la Series X, oui. Elle a augmenté de prix au moins une fois. Mais on pourrait parler de Sony. C'est vrai que la PS5, depuis qu'elle est sortie, a connu 2 hausses de prix.
Alors déjà, elle était à 500 euros de base, hein, pour la version A avec CD, enfin, avec lecteur.
C'est ça, avec lecteur. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a eu plutôt l'habitude jusqu'à présent que les prix des consoles soient plutôt sur des tendances baissières. C'est-à-dire que quand la...
Souvent avec un modèle, du côté de chez Sony, avec un modèle genre plus petit, genre les versions Slim, qui justement étaient justifiées par le fait que ben, avec le temps, les composants se sont améliorés, donc on pouvait optimiser un peu les tailles de console, quoi.
Ah oui, c'est exactement ça, en fait. C'est que souvent, chez Sony, le modèle, c'était ça. On sort la PS3, elle coûte effectivement 600 balles, c'est très 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 cher, mais 2 ans et demi plus tard, t'as une PS3 Slim qui, elle, coûte beaucoup moins cher, ou alors la PS3 se retrouve bradée très peu cher pour vider les stocks, entre guillemets, puis c'est la PS3 Slim qui la remplace, qui est le modèle un peu plus petit, un peu plus compact, comme on le disait, un peu plus optimisé en termes de composants.
Oui, souvent un peu plus stable aussi.
Chez Sony, oui, ça a tendance à être plus fiable, pas forcément plus stable en termes d'OS, mais plus fiable en termes de composants, oui, parce qu'effectivement, il y a un peu de maturité derrière. Et c'est souvent comme ça, hein. Chez Sony, il y a énormément de révisions de consoles. La PlayStation première du nom, même avant le modèle PS1, qui était le modèle un peu entrée de gamme, pas très cher, qui avait été positionné pour lutter contre la Dreamcast. C'est assez rigolo, hein. C'était de dire on va faire une version un peu plus petite, un peu moins chère, un peu budget, parce que la Dreamcast sort en face. Mais avant même cette version-là, il y a énormément de révisions de la PS1. Il y a au moins 5 ou 6 révisions de la PS1 classique. Parce que justement, pour gratter sur les coûts, et pour pouvoir proposer une console à moins cher. C'est la première fois que chez Sony, non seulement on ne propose pas de console à moins cher, mais en plus le prix augmente. Alors c'est jamais grand-chose, c'est 50 balles de plus, mais bon, sur 7-8 ans maintenant, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie la PS5.
2020.
Voilà, donc depuis 5 ans, deux hausses de prix, c'est quand même extrêmement surprenant.
Oui, et puis en plus, contrairement aux autres consoles, il n'y a pas de version plus petite, parce que la PS5 fait quand même une sacrée taille. Et
si,
moi
y a
j'avoue.
PS5 Slim, mais qui est bon.
Bah, il n'y en a pas.
Si, il y a une PS5 redesignée, je sais pas quoi, plus petite, plus haute.
Parce que pour moi, ils ont mis en avant la PS5 Pro qui coûte une blinde. Mais la PS5 Slim, j'ai pas.
Il semblait bien qu'il y avait une.
Si, ils ont fait une version un peu plus petite.
Oui, mais c'est pas grand chose plus petit, c'est peut-être pour ça que ça t'a pas marqué. T'as une PS5 Slim qui est sortie en 2023, qui est un petit peu plus compacte, mais à peine plus compacte, en fait. Et t'as effectivement une PS5 Pro, qui est censée être le modèle ultra... En gros, ce qui s'est passé, c'est que finalement, la PS5 a disparu au profit de la PS5 Slim. Ça, c'est un grand classique chez Sony, il y a une PS5 Pro. Finalement, c'est le même modèle que pour la PS4. Quand la PS4 Slim est sortie, la PS4 standard... s'est retrouvé relégué au placard, et t'as la PS4 Pro qui est sortie quelques mois avant ou quelques mois après, me semble-t-il. Mais en gros, c'est un renouvellement de gamme. La PS4 standard, elle a été gentiment mise au banc, elle a été remplacée par une version supposément moins chère. Là, la version est au même prix, je crois, que la PS5. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de baisse de prix, parce que la version était un petit peu plus accessible, quoi. C'est un peu bizarre de se dire ça, de se dire que finalement, les mecs ont quand même juste réussi à augmenter le prix, quoi, au final.
Et d'ailleurs, Microsoft a fait pareil, hein, parce que je crois qu'il y a eu une première augmentation, il y en a eu une il n'y a pas très longtemps, de Xbox Series X, quand on en a parlé.
La Series X au moins, la Series S, je crois pas.
Mais la Series S est quand même très boudée par les revendeurs, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais c'est le fait qu'elle soit que en démat, fait qu'elle est compliquée à trouver en magasin.
Effectivement. Après, côté Nintendo aussi, les prix augmentent, hein. On a appris notamment à la sortie de la Switch 2 que la Switch OLED allait augmenter de prix.
Ah ouais.
Oui. Alors au moins au Canada, je sais pas si en Europe ça a été le cas aussi, mais je sais qu'au moins au Canada et aux États-Unis elle a monté de prix. Jusqu'à présent, c'est vrai que chez Nintendo on a vendu la Switch exactement au même tarif depuis 2017.
Oui, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé. Et il y a eu quand même une révision majeure de la Switch 1, puisqu'il y a le fameux modèle Mariko, qui est le modèle avec un CPU un petit peu plus optimisé. C'est celle dont l'espérance de vie...
Il n'a pas de faille. Surtout.
Qui n'a pas de faille, tout à fait, qu'on peut pas pirater, enfin qu'on peut difficilement pirater, parce que je crois que maintenant c'est possible.
Alors du coup, c'est la deuxième révision, puisqu'on a eu une assez rapidement après la sortie pour tuer la faille hardware.
Non, vous parlez de la même, là.
On parle de la même, hein. C'est la première révision, donc il y a eu la toute première Switch, et il y en a une deuxième qui est sortie dans l'année quasiment de la première, justement pour patcher son problème matériel, et pour optimiser le CPU.
Et en 2019, t'as eu la version avec la meilleure batterie.
La Switch Lite.
Non, alors t'as eu la Switch Lite, ça devait être 2018 pour la sortie de Pokémon, et 2019, t'as eu une version de la Switch, je crois qu'ils ont peut-être un peu redesigné le packaging d'ailleurs, qui était sorti, et un de ses atouts, c'est le même format, hein, c'est pas une OLED, mais c'est
une
meilleure
batterie.
Non, mais
en fait, vous parlez de la même, celle qui a la meilleure batterie, et corrige aussi la faille.
Non, la faille corrigée, ça a été corrigé dans l'année de la sortie de la Switch. Moi, j'ai un modèle qui date d'avant la version avec meilleure batterie, mais qui n'est pas de 2017,
ah,
je ne peux pas la pirater. Okay. Je vais vérifier.
D'accord, il y a eu deux révisions. Ok, il y a peut-être eu une révision matérielle avant de sortir la fameuse Mariko. Ok.
Celle-là, je m'en souviens, puisque elle devait sortir en septembre 2019. Deux mois avant, je me faisais tirer mon sac avec ma Switch dedans. Fire Emblem sortait une semaine après. Je fais, bon, est-ce que j'attends ou pas? J'ai pas attendu. J'ai fait la croix sur la batterie pour aller jouer à trois maisons. Hein.
J'entends. J'entends, mais voilà, le prix de la Switch OLED a augmenté, et c'est vrai que on se le disait en off, il y a pas mal de gens qui achètent la Switch 2 parce qu'ils ont peur que le prix augmente. En tout cas, ça fait partie des raisons qui pourraient justifier le fait de vendre 10 millions de consoles en 4 mois seulement. C'est que les gens se disent, putain, les prix continuent d'augmenter, donc si on n'en profite pas maintenant au prix où elle est, ça risque encore d'augmenter.
Alors attention, moi, je pense, enfin, c'est moi qui ai abordé le sujet, mais je pense que c'est une frange très mineure des 10 millions. Hein.
Mais c'est une frange mineure, mais ça joue un peu. Il y a quand même cette peur, elle existe forcément.
Oui, non, bah, en même temps, comment ça se passe, on sait que Nintendo n'a pas tendance à baisser les prix.
Bah, ils ont eu tendance à baisser les prix pendant très longtemps. On se
quand ça
que...
se vendait pas. Oui.
Même quand ça se vendait
pas, voilà.
Même quand bah, ça
la
se vendait,
Wii n'a pas vraiment baissé de prix. Hein.
La Wii, la deuxième révision, celle qui était plus rétrocompatible GameCube, était un peu moins chère. Alors, elle est sortie assez tard dans la cycle. Elle est très tardive dans le cycle de vie de la Wii. Mais il y a quand même eu une baisse de prix. Alors, c'était un modèle différent. C'est une révision.
À ce moment-là, la Switch Lite, c'est une baisse de prix de la Switch. Mais
Bah, d'une certaine manière, c'est une Switch un peu plus accessible, hein, puisqu'effectivement, bah, c'est un peu moins cher.
C'était la Switch pour les gamins pour jouer à Pokémon. Ça devait aller sortir pour la
Switch pour les gamins pour jouer à Pokémon.
C'est comme la 2DS. Hein.
C'est comme la 2DS, exactement. Mais la 2DS, c'était une façon effectivement de baisser le prix. Mais tu vois, là, il y a une certaine logique industrielle aussi. C'est-à-dire que finalement, t'as une carte mère plus simple, t'as un peu moins de composants, t'as plus la charnière qui doit coûter un peu cher à faire malgré tout. C'est une version un peu au rabais. Mais c'est pas déconnant, comme la Wii Mini, hein. Qui était la version dans laquelle il n'y avait plus de manche disque, il n'y avait plus de machin, c'était vraiment la réduction de la console à son plus simple appareil. C'est un peu normal que ça se vende un peu moins cher du coup, mais ça a du sens industriellement. Dire bon, on va essayer de tirer un peu les dernières cartouches. Là, j'ai l'impression qu'on n'aura même pas ça sur cette génération.
Ah ben, alors, je pense que quand on aura un nouveau Pokémon nouvelle génération, on aura une révision de la Switch 2 adaptée pour le public jeune.
Donc une espèce de Switch 2 Lite.
Oui, sûrement.
Je parie qui se branche pas sur la télé, qui aurait des... Pareil, des Joy-Con qui se détachent pas.
Ouais, un truc un peu solide, dont... Parce que, enfin, mine de rien, c'est une console qui est quand même assez chère. Je pense que les parents ne veulent pas le mettre dans les mains de leurs enfants.
Je te confirme.
Voilà, je me suis dit que j'allais laisser parler le daron de la bande.
Je te confirme, bon, même si les miens ils sont grands maintenant, donc c'est vrai qu'ils font un peu plus attention de toute façon. Mais... Bref, on a eu aussi, on rappelle, hein, on en avait déjà parlé, mais des augmentations de prix côté jeu, c'est-à-dire que la génération PS360, oui, en gros, le jeu coûtait à peu près 60€.
Alors c'est plutôt 70 sur les consoles HD.
C'était 70 sur les consoles HD, pour moi ils avaient alors, maintenu en fait, à peu près le même prix.
Si mes souvenirs sont bons, on avait 60€ à la génération GameCube, PS2.
Ça oui, GameCube, PS2, Xbox, et c'est sûr, le jeu neuf coûtait 60€.
Ça s'est un peu splitté à la génération suivante, puisque c'était plutôt 70 sur PS360, et je me souviens que ça râlait déjà à l'époque. Et sur Switch, Nintendo vendait la majorité de ses jeux à 50€.
Oui, mais Nintendo a toujours vendu ses jeux à moins cher que les autres.
Ah, sur GameCube, c'est ça.
Oui, tout à fait, mais je veux dire, globalement, quand tu regardes sur Wii, effectivement, les jeux Nintendo étaient à 50€, mais quand tu regardes sur N64 ou sur Super Nintendo, par exemple, ils avaient tendance à être 100-150 francs moins chers que les jeux de la concurrence. Sur le même support. Donc ton Mario Party sur N64, tu le payais 399 francs, alors que le FIFA 99, tu le payais plutôt 500 francs. C'est quelque chose de notable, hein. Les Nintendo a tendance à essayer de vendre ses jeux moins chers sur sa machine. C'est alors, un peu moins vrai aujourd'hui aussi, vous noterez.
Alors moi, d'ailleurs, un truc que je trouvais intéressant, en période PS360, mais t'avais beaucoup de gammes budget de jeux qui étaient disponibles, notamment à l'époque GameCube, tu sais, les Player's Choice, je sais plus comment ça s'appelait sur PS2.
PlayStation 2 Hits, et je crois que même sur Xbox, il y avait les Xbox Classic, un truc comme ça. Ou...
Et ça, c'est des trucs qui ont disparu petit à petit. Hein. Trouver des gammes de jeux à petit prix, c'est de plus en plus rare. Je sais même pas si on a eu ce genre de choses sur Switch, je pense pas. J'ai pas le souvenir d'en avoir eu sur... sur Wii U, j'ai pas eu assez de jeux, mais...
Alors sur Wii U, il y en a eu. Hein.
Ah ouais?
Sur Wii U, il y en a eu. Il y a une gamme budget. Il y a très peu de jeux qui sont sortis dedans, mais il y avait une gamme budget. Sur 3DS, il y avait une gamme budget. Aussi, où tu avais les genres... C'est un Player's Choice, c'était ça, je crois, le titre. C'était vraiment... Enfin, pardon, c'est le choix des joueurs, puisque c'était comme ça que ça s'appelait au Canada. Ça fait très plaisir. Et c'est vrai que sur PS3, c'est pareil. Tu avais genre les million sellers qui se retrouvaient... Tu sais, t'avais des espèces d'éditions complètes aussi qui sortaient. T'avais genre le Metal Gear 4 ou je ne sais quoi, qui ressortait à grosso merdo deux fois moins cher. T'avais l'intégralité du contenu sur la galette, t'avais tous les DLC. et ça sortait à un prix un peu plus budget. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a quand même à peu près disparu. Alors des éditions jeux de l'année ou des choses comme ça, il y en a encore, mais il y en a aussi beaucoup moins, j'ai l'impression. En tout cas, beaucoup moins qu'avant. C'est en tout cas l'impression que ça donne. On a aussi des augmentations de prix, puisqu'on a vu que Mario Kart World était un prix conseillé de 90 euros. On a du 80 euros qui s'est un petit peu généralisé ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est quand même ça commence à devenir un petit peu compliqué de ce point de vue-là.
Bah, 80 euros, c'est notamment le prix de certaines exclus Sony sur PS5. Hein.
Mais il me semble qu'il n'y avait pas Demon's Souls justement qui était sorti à beaucoup plus cher que ça. Je crois que c'était 90 euros dans le commerce.
Là, ça je me souviens plus. Je crois que Eternal c'était 80 balles. Hein. Enfin, en tout cas, les premières exclus. Alors maintenant, j'ai pas suivi le cours parce que je n'ai pas de PS5, mais je sais qu'il y a eu pas mal de trucs comme ça. Les premières exclus, 80 euros.
C'est vrai que bon, voilà, ça a commencé à tirer un petit peu la gueule. Alors, en dehors des questions d'inflation, on a effectivement un très bon article sur le dojo, on nous le rappelle dans le chat, sur les questions d'évolution de prix. Il faut se rendre compte que, en fait, le jeu GameCube que tu achetais en 2001 à 60 euros, en fait, réactualisé en euros constants, aujourd'hui, il en vaudrait plus 90. On a fait à peu près plus 50% d'inflation depuis l'an 2000, grosso modo, en 25 ans. C'est pas tout à fait exact parce que vous avez l'inflation de certains produits qui ne. Enfin, c'est un chiffre global. C'est un peu compliqué à calculer. Pareil, il faudrait le calculer en parité de pouvoir d'achat. C'est expliqué dans l'article. On le remettra, je pense, en lien dans la description du podcast pour bien expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce truc-là. On a une vision un petit peu déformée à se dire « Putain, mon jeu, je le payais 60 balles. Aujourd'hui, il est à 90 balles. Ben, » En fait, l'inflation a quand même joué là-dedans, malgré tout. Mais il n'y a pas que ça. Qui a joué. On avait effectivement des gammes de prix adaptées en fonction des jeux qui ont un petit peu disparu. On en parlait, on avait une tendance chez Nintendo, chez Ubisoft, même chez Electronic Arts, sur Switch par exemple, il y a eu pas mal de jeux qui étaient sortis à petit prix. It Takes Two par exemple était à 40 euros quand il est sorti. Okay. Voilà, c'était pas le gros jeu, donc il était adapté. Les petites productions avaient tendance, avec des petits budgets, avec des petits développeurs, avaient tendance à essayer d'être un petit peu moins cher pour attirer les joueurs. On a l'impression que ça aussi, c'est un peu en train de disparaître. Pas partout, il y a toujours une production indé relativement vive, mais quand même...
Ouais, du coup, ce qui fait qu'on va avoir un gros écart entre les indés qui sont à 20-30 euros en général et les jeux gros éditeurs qui vont être à 70-80, quoi.
Exactement, tu vas te retrouver avec des grosses production value qui vont coûter de plus en plus cher, alors que finalement les indés, alors, ont augmenté de prix aussi, hein, on va être clair, le temps où le jeu indé tu le payais 10-15 balles, il y en a encore, hein, mais il y en a relativement peu. Là maintenant quand ils sortent, ils ont plus tendance à être à 20-25 euros, mais 20-25 euros pour des jeux comme Silksong par exemple, ça va, tu vois, tu t'en as un peu pour ton argent. Donc c'est raisonnable. Maintenant faut voir aussi qu'il y a eu une grosse augmentation du nombre de microtransactions dans les jeux. Donc, pour maintenir le jeu à un prix acceptable, quand Ubisoft produit un Assassin's Creed qui coûte très très cher à produire, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros pour produire un Assassin's Creed, voire plusieurs centaines de millions d'euros, pour rentabiliser le truc, les ventes du jeu ne suffisent plus. Même à 80 balles ou 90 balles, c'est très compliqué d'arriver à rentabiliser un jeu sur la durée. Donc je pense qu'il y a pas mal d'éditeurs, alors je suis pas certain, je sais que c'est le cas d'Electronic Arts, puisqu'on en a déjà parlé, où FIFA est vendu. Alors je pense que FIFA ne doit pas coûter extrêmement cher à produire en termes de jeux purs, par contre en termes de licence et de paiement à la FIFA, et de paiement à l'association des joueurs...
Oui voilà, FIFA ne paye plus la licence, mais il paye toujours le nom des joueurs.
Il paye toujours le nom des joueurs, je pense que ça c'est ce qui coûte pratiquement le plus cher, je pense que le jeu lui-même, il y a effectivement des améliorations d'une année à l'autre, enfin... Globalement, la base est quand même dans la même.
Je pense qu'ils vont juste le mercato et c'est tout.
Je pense qu'ils font un peu plus que ça en coulisses, parce qu'il y a le Frostbite Engine qui évolue aussi, mais on est d'accord que ça reste peanuts par rapport à un jeu que tu refais depuis le début et que tu es obligé de redesigner. Là, ça reste un jeu de foot, quoi.
Ah bah après, ils optimisent toujours 2-3 trucs sur le réalisme, parce qu'en fait, c'est sur ça qu'ils se vendent. Hein. FIFA, ce qui fait que ça marche, c'est que ça a l'air réaliste.
Oui, voilà, il y a de l'optimisation, il y a les nouveaux stades, il y a de nouveaux commentateurs, mais si tu veux, je pense que ce qui coûte cher, c'est plus le doublage, le nom des joueurs, c'est finalement la production value et pas tellement la partie gameplay. Je pense que la partie gameplay évolue, mais vraiment par très petites touches maintenant. Surtout que tu as une grosse base de joueurs qui ont quand même une certaine tendance à être très très capricieux, et que si tu changes la façon dont fonctionne leur FIFA, ça va pas bien se mettre, quoi. Voilà, mais du coup, les FIFA, quand ils sortent, effectivement, ils sont à 70€ tous les ans, au mois de septembre, octobre, tu les payes très très cher, mais en fait, ils baissent de prix extrêmement vite, parce que finalement, là où Electronic Arts fait le plus d'argent, c'est pas sur la vente du jeu maintenant, c'est sur les microtransactions, et notamment FIFA Ultimate Team.
Ah bah oui, ça on en avait parlé la dernière fois.
Exactement. Et on a le même problème, en fait on a le même phénomène un petit peu chez Ubisoft, je soupçonne très fortement Electronic Arts, Ubisoft, Activision, de sortir certains jeux à perte. C'est-à-dire, ils savent que quand ils vendent le jeu 60€, en fait, il faudrait vendre plusieurs dizaines de millions d'exemplaires pour le rentabiliser, et ce ne sera pas le cas. Mais ils comptent sur les DLC, les Season Pass, les bonus de précommande, les choses comme ça, pour en réalité arriver à se rentabiliser sur les 6 mois, 1 an que le jeu va être dans sa période, on va dire, de vente très 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 active. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on a intégré ou accepté en tant que joueur, mais c'est vrai que finalement ton budget jeu aujourd'hui, c'est plus seulement l'achat, on va dire, de la console, de quelques accessoires et des jeux, c'est aussi l'achat des DLC, des Season Pass, des abonnements, des microtransactions parce que ça te fait plaisir d'avoir une mitraillette rose, etc. etc. Donc, je sais pas à quel point ça a été intégré par les joueurs, mais c'est vrai que ça fait aussi partie du budget.
Moi, je peux te donner un exemple. Dans la communauté Street Fighter 6, il y a quelques mois, ça a râlé. Pourquoi ? Parce que alors Street Fighter, c'est un très bon jeu. Hein. Beaucoup d'achats in-app, enfin dans l'application, dans le jeu.
Et tu remarqueras que tu remarques que t'as dit application, parce que sur mobile, c'est le standard. Ouais, tout un tas de merde intégré dedans.
Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que bon, ils font les trucs de Battle Pass maintenant, un truc assez traditionnel, mais les récompenses dedans, elles sont assez minimes. Tu vois, il y a quelques musiques, des écrans pour quand tu joues un match en ligne, ça te fait une présentation spécifique et tout. Et en fait, les gens se sont mis à râler parce que les contenus n'étaient pas assez intéressants et qu'ils voulaient des costumes pour les personnages. Et oui, c'est clairement intégré par une frange des joueurs de dire, mais en fait, si j'ai pas mon DLC de costume, c'est nul. Ton jeu, il est mort.
Putain, c'est assez flippant de se dire que les gens ont vraiment intégré le fait que, finalement, ils se sont habitués au fait qu'ils allaient avoir des costumes supplémentaires, qu'ils allaient les payer, que ça faisait partie, finalement, du package du jeu, j'allais dire. Et c'est vrai que, ce sera notre dernier point sur les questions de prix, mais entre les collectors, Mecton est pas là, c'est dommage, hein.
C'est un gros spécialiste des gros lecteurs.
C'est un gros spécialiste du gros lecteur. Les collectors, les DLC, les précommandes, les season pass, les choses comme ça, j'ai l'impression que les gens en fait, sont déjà presque un peu habitués à payer leur jeu beaucoup plus cher, c'est-à-dire acheter entre guillemets moins de jeux plus cher, ou avoir une consommation à deux vitesses. C'est-à-dire à se dire, bah, j'achète mon Call of annuel, mon FIFA annuel, c'est le gros jeu que je vais acheter le jour de sa sortie, etc. Moi, Assassin's Creed.
Ouais, après, en même temps, si tu joues que à ça, enfin, beaucoup.
Et à côté, tu joues que à ça, pourquoi pas, mais et à côté, t'achètes ton Silksong à 20 balles, et puis voilà, finalement, est-ce que ce marché à deux vitesses ne correspond pas aujourd'hui à une consommation du jeu vidéo de la moyenne des gens ?
En fait, c'est intéressant aussi, ces phénomènes de collector, parce que. Et de bonus de préco, parce que c'est des choses qui existent depuis un petit moment. Moi, alors, je me souviens. Je sais plus c'est quel Assassin's Creed, encore pas Ubisoft, où en fait selon la boutique où tu l'achetais aux États-Unis, tu n'avais pas les mêmes DLC offerts avec ton jeu.
Ah oui, je me souviens, t'avais un Excel
pour savoir ce que tu allais avoir, c'était n'importe quoi.
T'avais aucune version où tu pouvais tout avoir, ça rendait vraiment fou. Donc le FOMO déjà, il est bien là. Et en fait, oui, t'as quand même beaucoup de joueurs, bah, ils prennent le jeu en collector, ils prennent le jeu avec les DLC de précommande, ils prennent le jeu avec Season Pass. Je vais revenir encore sur les jeux de combat, mais en fait maintenant tu peux acheter ton jeu de combat tout seul, ou ce que font beaucoup de gens, acheter le jeu de combat avec la première saison de personnage. En fait, tu payes 90 balles au lieu de payer 60, enfin 70. Et c'est des habitudes que les gens ont pris de, même quand tu achètes ton jeu neuf, tu n'achètes pas que la cartouche, tu achètes souvent des choses à côté. Moi je sais que c'est pas mon cas. Parce que comme je joue pas mal, je joue à pas mal de jeux différents, bah en fait au bout d'un moment si je fais toujours ça, j'aurais du mal à faire autre chose de ma vie que de jouer aux jeux vidéo, ce que je n'ai pas envie de faire. Mais c'est des choses qui existent, hein. Se faire ce petit plaisir de prendre le petit contenu en plus à l'arrivée pour l'avoir dès le début. Et tu vois, je pense que tu parlais de Call of Duty. Je serais pas surpris, alors je sais plus combien ils font d'éditions spéciales maintenant, mais je serais pas surpris que
t'as 3-4 éditions spéciales à chaque fois.
C'est ça, ouais,
t'as le truc de base et t'as 3 niveaux, genre t'as plus et plus quoi, c'est vraiment
ben ça. Et les gens qui passent du temps sur Call of Duty, où c'est peut-être un des 3 jeux auxquels ils jouent dans l'année, l'autre étant peut-être le gros triple A annuel et ce genre de choses, bah ils se disent, moi je passe du temps dessus. Il y a des skins collector qui ont l'air sympa, il y a un petit bonus pour démarrer avec plus d'XP, et ben je vais prendre l'édition un peu plus chère, mais je vais avoir une expérience de jeu complète. Et ça fonctionne beaucoup là-dessus. Et c'est clair que maintenant, 90,9€ pour un jeu seul, enfin, 90,9€ pour un jeu, en fait, je pense qu'il y a déjà des gens qui le payent. C'est juste que c'est pas juste le jeu, de ce moment, il y a des trucs avec.
C'est ça, j'ai l'impression qu'en fait, 90€ pour l'expérience complète finalement, c'est devenu, entre guillemets, une espèce de standard. C'est un peu triste à dire, d'une certaine manière, mais c'est devenu le standard et c'est ce que certaines personnes sont prêtes à payer. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, si tu joues à beaucoup de choses différentes, le fait de foutre 90 balles dans un Black Ops 7 complet, bah, ça te fait peut-être un peu chier, parce que tu te dis, ok, j'ai l'expérience complète, mais ça coûte très cher, et en fait, je vais pas y jouer tant que ça. Donc peut-être, est-ce que c'est une adaptation? Est-ce que c'est les éditeurs qui se sont dit, bah finalement, vaut mieux proposer une version de base à 60 balles pour le kidam moyen, et puis une version complète pour les vrais gros fans qui passeront 10 heures par semaine pendant quasiment toute l'année à jouer à Call of Duty. Je sais pas. C'est peut-être un modèle qui est plus rentable pour l'éditeur finalement. De se dire, en fait, j'attire le maximum de monde et puis voilà.
C'est aussi un moyen de récupérer plus d'argent à la sortie, parce qu'en fait il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas précisé, mais je pense que c'est important de le rappeler. Tu n'as plus aucun jeu. Enfin, c'est très rare, les jeux, quand ils sortent, ils ne vont pas être patchés à un moment ou un autre. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais typiquement, Mario Kart World, entre la version actuelle maintenant et la version d'il y a 4 mois à la sortie, il y a des trucs en plus entre les deux jeux. Donc en fait, t'as un suivi des jeux, un jeu, il n'est pas figé à sa sortie comme c'était le cas il y a 20 ans. Ouais. Donc en fait, c'est aussi un coût, parce que tu payes des développeurs.
Tu payes des développeurs, effectivement, autant sur la génération PS3 à 360, il y avait un truc assez connu, c'était intéressant, on n'avait pas sur Wii, on avait des jeux qui sortaient, entre guillemets, finis, même s'il y a eu des bugs et des choses comme ça qui fait que...
Alors, il y a eu la fameuse chaîne pour patcher sa sauvegarde de Skyward Sword.
T'as eu les bons. Tu sens que Nintendo atteignait un peu la limite d'un modèle, mais sur PS3 et sur Xbox 360, je me rappelle qu'effectivement, quand le jeu sortait, il sortait. Et le patch de correction, je crois que... Alors, je sais pas si on avait droit à un seul patch, ou c'était une taille limite de patch, mais je sais que les gens attendaient le patch. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait souvent
des limites au début. Maintenant, c'est quasiment plus le cas. De toute façon, t'as des patchs Day One maintenant. Hein.
Maintenant, t'as des patchs Day One, donc effectivement, c'est plus le cas. C'est-à-dire que le jeu qui est goldé, donc qui est considéré par l'éditeur et le constructeur comme étant bon pour la vente, entre guillemets, de toute façon, il se retrouve quand même patché derrière. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à considérer qu'on est bon pour la vente dans ces cas-là, mais c'est une considération tout à fait personnelle.
Après, il y a d'autres contraintes industrielles maintenant qui savent que ça fonctionne comme ça et...
Tout à fait. Non, mais après, il y a le mark-to-market, le fait de dire bah, il faut absolument sortir le jeu à telle date pour pouvoir être sur le marché, pour pouvoir être dispo en magasin, et ainsi de suite, et ça, je le comprends aussi.
Bah, derrière, t'as aussi une chaîne de production. Hein.
Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, est-ce que les gens... Quand t'achètes ton Mario Kart World, est-ce que tu t'attends effectivement à ce qu'il y ait du contenu supplémentaire gratuit? Quand t'achètes ton Splatoon, est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait une nouvelle carte tous les trimestres? Un nouveau mode de jeu tous les ans? Bah, si la réponse est oui, effectivement, bah, le fait d'avoir du suivi sur des jeux comme ça, ça se paye aussi.
Bah, d'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de suivi de contenu sur Mario Kart World, alors que je trouve que le jeu pourrait bien s'y prendre. Alors, j'ai pas joué au jeu, mais ça me paraîtrait surprenant qu'il ne l'ait pas fait, alors que ça marche bien sur Splatoon, en fait.
Alors, il y a eu de la correction. Il y a eu pas mal de corrections, mais ça, c'est des choses aujourd'hui que tu considères comme acquises, mais c'est pareil, hein, c'est, encore une fois, faut imaginer qu'il y a 20 ans, quand le jeu sortait, bah, s'il avait un bug, le bug était dans le jeu, et puis c'est tout. Hein. Donc, est-ce que la qualité du jeu était un peu meilleure? Peut-être. Est-ce que les jeux étaient un peu mieux finis?
ça peut se discuter aussi, on va dire que...
T'avais des jeux infinissables qui sortaient dans le commerce. Hein.
Il y avait quelques jeux infinissables qui sortaient dans le commerce. Il y a peu d'exemples, mais il y en a quand même. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeux infinissables, c'est plus rare, on va dire ça comme ça.
Mais juste pour finir un peu là-dessus, moi, il y a deux phénomènes que je trouve aussi intéressants, c'est que depuis maintenant 15 ans, le free-to-play, c'est aussi une norme qui existe, notamment sur PC. Donc en fait, t'as des jeux qui coûtent plus cher, mais tu peux aussi jouer à des jeux quasiment gratuitement. C'est les microtransactions. Et alors, je sais plus si c'est encore trop le cas, mais il y a quelques années, je pense un petit peu avant 2020 notamment, tu avais ce phénomène de gros jeux qui sortaient, vendus plein tarif. Et en fait, au bout de 3 semaines, tu pouvais les trouver bradés, soit dans un Micromania, soit même en ligne des fois.
Alors, je connais ça, c'est Concorde.
Non, pas Concorde, parce que Concorde a été arrêté. Mais genre, je pensais à Dishonored 2 qui a été ce cas-là, où genre, je crois, un mois après sa sortie, tu pouvais le trouver à 20-30 balles. Le jeu était sorti depuis un mois, tu vois, il y a une énorme déflation du prix. Et c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a un moment, en fait, tu sors un jeu à 70 euros et t'es prêt à le brader moitié prix au bout d'un moment, quoi.
Bah, il y a à peu près que Nintendo qui arrive à faire du long-seller. Hein.
Ouais, mais enfin là, c'est même plus du long-seller, c'est genre, tu brades le prix un mois après, quoi.
Ouais, ton jeu a une valeur... C'est le cas, de toute façon, les anti-triches, les mecs, ils savent que ça va se faire craquer, mais ils disent, il faut juste que ça résiste un mois, le temps du pic des ventes, et puis après, on s'en fout.
Bah, c'est-à-dire qu'après, t'as aussi un modèle un peu particulier, dans lequel, effectivement, je rejoins un petit peu ce que disait Ergy, tu sais qu'un gros jeu, genre Ubisoft, sait que, de toute façon, 80% des ventes d'un Assassin's Creed vont se faire le premier mois. Quoi qu'il arrive. Les gens auront envie de payer leur Assassin's Creed le jour de sa sortie. C'est ce qu'on disait. Hein. Quand t'achètes 3 jeux dans l'année, parce que c'est 3 AAA, t'achètes ton Call of, ton Assassin's Creed, ton FIFA, bon, finalement, bah, t'as envie de l'acheter, t'as envie de l'avoir, t'as envie d'en profiter tout de suite. Voilà. Quand t'es un joueur un petit peu patient et que tu te dis ouais, « ça peut attendre un mois ou deux, j'attendrai une promo sur l'eShop, j'attendrai que le prix baisse en magasin, j'attendrai de le trouver en occasion. Bon. » Voilà, effectivement, ça fait pas tout à fait pareil. Mais ça, c'est un phénomène qui a toujours existé. Hein. C'est... Encore une fois, je l'ai dit, le FIFA, au bout de normalement un mois, tu le retrouves quasiment à 2 fois moins cher. Alors après, il se rentabilise un peu autrement.
Mais c'est vrai que j'avais le souvenir vraiment de cette déflation qui avait débarqué, qui avait été un vrai sujet il y a quelques années. Où vraiment, ton jeu, si t'attendais un mois, tu l'avais à pas cher, quoi.
Mais tout à fait, non mais il y a un vrai, il y a un souci. Je pense que le modèle de vente est aussi un souci, c'est-à-dire être capable de faire un jeu qui se vend sur la durée, ça veut aussi dire qu'il faut s'organiser pour ça, j'allais dire, et se débrouiller pour effectivement avoir du contenu, à renouveler l'intérêt du public et ainsi de suite. Pourquoi Mario Kart 8, ça a été un long seller, mais vraiment un long seller? Alors, le jeu est de très bonne qualité, c'est le jeu que tu vas acheter quand tu vas acheter la console, c'est le jeu auquel tu vas jouer en ligne, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais néanmoins, on a eu un premier DLC, un second DLC, il y a eu toutes les vagues là, de plusieurs circuits. Je rappelle qu'on a quasiment une centaine de circuits sur Mario Kart 8, mais tout ça, ça a joué aussi, hein, du fait que les gens se disent « Ok, il y a encore du contenu, il y a encore des trucs qui sortent, allez on y va, on peut remettre la main à la poche. » Ça a... justifie l'achat d'une certaine manière. Bref, je vous propose de clore là-dessus, parce que ça fait déjà un gros sujet. Je suis content d'avoir parlé de prix. Alors, je me permets de rappeler qu'on a...
Après, il y a un truc qui est bizarre, oui. Quand même, c'est que maintenant, les studios se battent pour notre attention, et t'as quand même beaucoup de jeux où vraiment ils essaient que tu ne joues que à ça. Toi, genre Fortnite, t'as des gens qui jouent presque que à Fortnite.
Oui, tout à fait.
Donc, si tu payes ton jeu plein pot et qu'après, pour continuer à jouer, il faut dépenser éventuellement des DLC et compagnie, ça revient très cher.
Tout à fait, mais je connais des joueurs, moi, sur PC, qui, effectivement, aujourd'hui, sont dans un modèle où, finalement, c'est League of Legends, quoi. C'est, j'ai jamais payé le jeu. J'ai acheté un pack de perso il y a 5 ans, j'en ai racheté un il y a 2 ans, et finalement, voilà, tu remets 30 balles au cul du jeu de temps en temps, et puis c'est tout. C'est un modèle.
Plutôt Guilty Gear, mais j'achète de temps en temps le Season Pass pour avoir les nouveaux persos, parce que je joue encore régulièrement. Hein.
Bah, c'est aussi un modèle de jeu, finalement. Hein. La question, c'est est-ce que t'as fait un bon jeu
ou est-ce que t'as fait un framework qui permet d'aller vendre des trucs derrière?
Ah, ça.
C'est une question pour une autre fois. Peut-être que nous aborderons ça une prochaine fois, mais on a déjà 2-3 sujets en RAM. Bref, je vous propose de faire une seconde pause musicale. On va écouter un autre petit morceau de la bande originale de Katamari Damacy. Un morceau exceptionnel, un morceau qui... Je ne pouvais pas ne pas le mettre. Je suis désolé, ça dure quasiment 6 minutes, donc ça va être une très longue pause musicale. Mais voilà, vous asseyez, vous relaxez. Si vous êtes dans les embouteillages grenoblois, vous augmentez le son de votre autoradio. Vous ouvrez les vitres en grand pour que tout le monde puisse bien en profiter, et vous allez rouler sur cet embouteillage. Voilà, le morceau s'appelle Lonely Rolling Star. Normalement, comme c'est chanté en japonais, vous allez absolument rien comprendre et avoir l'impression que la dame dit Lonely 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 Star. Mais voilà, c'est juste génialissime. C'est composé par Yoshihito Yano, et ça dure donc un tout petit peu moins de 6 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Retour.
Et donc, on va parler de Katamari Damacy. Mais on va commencer par le petit pitch, parce que là, il est très très important, le scénario est extrêmement compliqué. Hein. C'est vraiment, faut s'accrocher.
Exactement.
Donc Antix, je t'en prie, le pitch.
Bien sûr. Il est des cuits dont les conséquences sont désastreuses. Rappeler son ex, faire le tour du quartier en étant nu, croire les promesses d'un premier ministre de Macron, ou encore vider le contenu de son estomac sur le tapis du salon. Autant d'événements que l'on regrette une fois l'alcool évacué. Alors, quand on est le roi tout puissant du cosmos, autant vous dire que les conneries avinées ont des conséquences galactiques. Dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les étoiles et les lunes qui vont finir en poussière, détruites par le roi du cosmos torché comme un étudiant d'école de commerce un jeudi soir. En bon père de famille, le roi choisit d'assumer ses bêtises et demande à son fils, le prince de tout le cosmos, de les réparer à sa place. Et pour ça, rien de plus simple. Il suffira au prince d'aller rouler sa boule sur Terre pour y coller tout ce qui lui passe par la main, de la punaise au kraken géant, en passant par une quantité d'écoliers qui n'avaient rien demandé, afin de recréer la voûte céleste. Jeu au concept aussi déjanté que simple et attachant, Katamari Damacy reste un titre unique du catalogue de Namco depuis sa sortie sur PlayStation 2 en 2004. De par son ambiance, mais aussi son game design qui à l'époque prenait déjà le contre-pied des jeux matures remplis de cinématiques et de pam-pam-boum-boum. Ici, point de violence ou de héros torturés, il suffit d'amasser plein d'objets pour créer la plus belle, la plus grosse boule possible, quitte à embarquer la moitié des immeubles de la ville au passage. Alors, prenez votre plus beau hashtag le Japon et embarquez avec nous pour découvrir cette série qui allie douceur et absurdité, en compagnie du prince et... Attendez, mais... Moi j'arrive au là. Oh mon dieu, c'est une boule géante! Vite, fuyons, le catamari! Ah
c'est prévisible, c'était bien! Ah, merci beaucoup. Donc effectivement, le roi du cosmos s'est mis la mine du siècle et a foutu le bordel. Et ça a des conséquences. Et comme ouais, il l'a dit, nous avons été vilains. Très vilains.
Je suis un bon soldat.
Ce jeu est tellement pété. Bref, donc Katamari Damacy, si on en parle en fait, c'est surtout parce que les deux premiers jeux de la série, à savoir Katamari Damacy et We Love Katamari, sont sortis en version reroll, donc des versions refaites par rapport à la version PS2, c'est disponible sur Switch, c'est pas très cher.
C'est 20€ pour le reroll, et je crois que c'est 30 ou 40 pour les deux autres.
Oui, ça doit être quelque chose comme ça, reroll étant le plus petit, on va dire, en termes de concept, c'est vraiment très cool.
Alors reroll, c'est le remake du premier.
tout à fait.
Qui déjà était vendu à pas cher à l'époque. Hein.
Tout à fait, on en reparlera, ça fait ouais. partie des jeux budget un peu rigolos côté Namco, des petites initiatives comme ça. Quand la scène indé existait pas vraiment encore, ou était on va dire très balbutiante, t'avais des gens de ce côté-là qui se disaient on peut faire des jeux à pas très cher en termes de budget, puis derrière les vendre pas très cher, mais faire un truc rigolo, faire une bonne expérience. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement le premier Katamari Damacy, il était vendu à 40€, ce qui, alors ouais. le jeu PS2 est plutôt à 60€. Donc quand tu prends oui, en compte que la distribution, tout ça, il n'est pas dématérialisé ni rien, donc bah, ça coûtait forcément un peu cher, fallait imprimer un disque, le distribuer en magasin et tout, bah, c'est pas si mal, c'est un petit budget, quoi.
Oui, et puis on parle d'un jeu qui se finit en 5 heures. Hein.
On parle effectivement d'un petit jeu, alors à cette époque, il y avait des jeux qui se finissaient en 5 heures, qui coûtaient beaucoup plus cher que ça, mais bon, c'était pas le même délire. Bref, donc les deux premiers jeux de la série, enfin les remakes des deux premiers jeux de la série, qui s'appellent tous les deux Reroll, d'ailleurs, c'est Katamari Damacy Reroll et Wheel of Katamari Reroll. Et plus, alors je crois que le Wheel of Katamari s'appelle Wheel of Katamari Reroll plus Royal Reverie.
Ouais, en anglais dans le texte.
Voilà. Donc c'est dispo sur Switch. Je précise que la version physique de Katamari Damacy Reroll n'est sortie qu'aux États-Unis et au Japon. Donc si vous voulez.
Comme pour la version PS2. Du coup.
Bah malheureusement. Alors que Wheel of Katamari Reroll est sorti en Europe, c'est quand même un peu stupide.
Bah, comme la version PS2.
Bah, on est toujours dans le truc stupide, bravo. Merci,
oui.
merci Namco d'être stupide. Par contre, le tout dernier épisode de la série, Once Upon a Katamari, qui est sorti il y a genre une ou deux semaines.
Deux semaines, je crois.
Voilà, lui est dispo partout, et c'est cool. Et donc, bah, comme vous l'avez entendu, hein, le principe, c'est que c'est le bordel. Donc il faut aller finir des niveaux... Enfin, faut se déplacer en fait sur Terre pour aller... finalement piquer des objets, et comment on pique des objets, ben on fait rouler
sa boule,
une grosse boule, ce qui s'appelle un katamari. Donc apparemment,
alors
c'est...
au début elle peut être petite, hein. La première elle fait
katamari.
10 cm,
c'est ça,
10 cm
tout petit katamari, et en fait chaque fois que tu croises un objet qui est grosso modo plus petit ou à peu près de ta taille, donc on compris entre 0 et 10 cm, il va s'agglutiner sur la boule, qui va donc devenir un gros tas de merde très 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 vite, ce qui est
oui,
extrêmement
c'est à la fin tu sais pas comment ça roule, hein.
Oui, non, mais des fois ça roule difficilement, hein, d'ailleurs, parce que t'as la boule de temps en temps elle fait des...
Ah bah, si tu mets un tournesol ou un panneau, ouais, des fois ça galère un peu, hein.
Ça galère un peu à tourner à gauche ou à droite, ça fait partie du jeu, la physique un peu bizarre fait partie du jeu. Donc ça colle à la boule, et en fait cette boule va grandir par palier, c'est-à-dire qu'à un moment elle va atteindre le palier de... Je crois que le premier palier ça doit être 15 cm. Et donc tu grossis pour pouvoir attraper des trucs plus gros, pour pouvoir rouler le katamari plus gros. Et la boule grossit, et en fait toute l'idée du jeu repose juste là-dessus. C'est-à-dire arriver à atteindre une boule d'une certaine taille en un temps limité. Sachant que je crois que la plus grosse ça doit être 12 ou 15 mètres... de diamètre.
Alors à la fin du jeu, on demandait 300.
Ah oui, c'est vrai. Putain, oui.
Mais le niveau est excellent, c'est exactement ce que tu t'attends de la fin de Katamari Damacy, et t'es heureux de l'avoir.
Oui, tu t'embarques.
Il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant.
À rouler une énorme boule comme ça. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que chaque niveau dure entre, on va dire, 10 minutes et un quart d'heure. Les premiers niveaux sont beaucoup plus courts, et puis ensuite ça s'allonge un petit peu.
Le dernier fait pas loin de la demi-heure.
C'est ça, parce que on part toujours de ces 10 cm, hein, pour atteindre les 300 mètres.
Alors, un petit peu de pas forcément, des fois on commence à 1 mètre. J'ai rarement, plus d'un mètre. Par contre, le truc qui est intéressant, c'est que les niveaux sont quand même pensés pour que tu évolues assez vite sur la taille où tu as besoin. Oui. Sachant que tout est en temps limité. Parce que ça, on a dit qu'il y a une durée, mais en fait, si on arrive au bout du timer et qu'on n'a pas atteint la taille de la boule, et on se fait envoyer chier par le roi du cosmos, qui est vraiment un connard jusqu'au bout, hein, vraiment le pire père de l'histoire.
C'est vraiment...
mais du coup, oui, tu vas commencer à différentes échelles, et ce qui fait qu'il y a des niveaux où tu vas commencer sur la table d'une maison japonaise, et d'autres, tu seras directement dans les rues de la ville, quoi. Parce que t'auras des échelles différentes.
Je n'ai refait qu'un tout petit bout du jeu, parce que je l'avais fait il y a quelques années déjà. Donc... Mais voilà, un autre truc intéressant, c'est qu'il y a presque un côté stratégique là-dedans, parce qu'en fait, il faut aller coller des objets... de la bonne taille, donc souvent tu passes par des endroits où les objets sont trop gros, puis à un moment tu grandis, puis tu dis, ah mais je peux repasser là, parce qu'il y avait des chats, des poules, des boîtes aux lettres, des gens, des écoliers, des maisons, du bordel. Bref, donc t'es souvent obligé de tourner un peu dans les niveaux, et d'avoir quand même une petite notion de où est-ce que je pourrais trouver un objet un petit peu plus gros. Bon, au bout d'un certain temps, des gros objets, il y en a. Hein. Ça, c'est pas la question. La question, c'est vraiment quand t'es petit ou t'as un petit côté stratégique. Faut pas faire n'importe quoi, faut essayer vraiment d'optimiser un petit peu ta course parce qu'encore une fois, on est en temps limité.
Même quand t'es gros, en fait, enfin, y a toujours un moment où tu vas devoir trouver quelque chose pour pouvoir grandir. L'idée étant souvent de trouver des objets qui te permettent de gagner plusieurs centimètres ou plusieurs mètres d'un coup.
Pas ressortir de son contexte. Hein.
Évidemment, bon, alors, tu sais, depuis le début, on parle de rouler sa boule, de coller des trucs sur sa boule, de faire des tailles, des boules de grosse taille.
Enfin, c'est mec. Génial ce jeu, putain.
Le mec, il nous manque juste les quilles, quoi.
C'est à peu près ça. Il y en a des quilles dans le jeu.
Ah bah oui. Mais en fait, il y a vraiment une logique, en tout cas, de se poser la question, qu'est-ce qui me permettrait de grossir vite? Et surtout, et au bout d'un moment, quand tu connais le jeu aussi, à quel moment je peux récupérer certains objets? Genre, typiquement, bah, quand tu commences à 10 cm, tu pourras récupérer les pièces de yen au sol, mais il faudra attendre que tu aies pris 10 cm pour récupérer les bouteilles de lait. Mais là, ça deviendra intéressant parce que tu en as peut-être 4 ou 5 d'affilée à la suite qui vont te faire gagner plusieurs centimètres d'un coup en les prenant toutes, et c'est vachement intéressant, quoi. Et c'est assez satisfaisant parce que forcément, plus tu grossis, plus tu peux débloquer de trucs. Et à côté, pendant que tu te balades, bah, t'as aussi un peu tout cet univers déjanté. Tu peux aussi profiter un peu de l'univers déjanté parce que c'est quand même complètement barré. C'est aussi barré que le pitch. Hein.
Oui, c'est vrai que le jeu est quand même extrêmement barré. Alors déjà, t'as cette BO absolument extraordinaire qui t'accompagne en permanence. Toute la BO est sous acide. Et puis t'as un côté bonbon acidulé, une espèce d'ambiance un peu... Tout est coloré, tout est chatoyant, le truc est fou, quoi. Ça ressemble vraiment à un trip sous acide.
Et moi, c'était vraiment un de mes plaisirs dans le jeu. C'était quand tu lances un nouveau niveau, tu fais « Oh, il y a une nouvelle musique ».
C'est vrai que c'est
Et je vais encore découvrir une musique plaisant. De Katamari Damacy.
Et puis t'as vraiment de tout dans cette BO. On vous a mis deux morceaux. Alors le premier morceau est extraordinaire parce que finalement c'est pas une musique, c'est juste un mec qui fait na 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 na.
Il fait même les batteries à la bouche. C'est vraiment incroyable. C'est la musique du tuto. Tu lances le jeu, t'arrives là-dessus. Hein.
C'est incroyable. Et c'est vrai que tout est comme ça en fait. Tout est exactement à ce diapason-là. Ça ne redescend jamais. Il y a toujours ce côté trip. Pété, dans lequel tu te dis « Ah, il y a une nouvelle musique », et puis ça décolle doucement, et en fait tu te laisses entrer dans le truc, et finalement tu vois pas le niveau passer parce que bah, t'es dans une espèce de zone finalement quasiment, hein, de te dire ah, « Putain, faut que je fasse grossir la boule », puis t'as le petit rap qui est juste derrière en japonais, un peu ridicule, et puis tu t'embarques une maman, puis ensuite t'embarques un immeuble, et puis tout va bien, quoi.
Et puis à un moment, tu t'arrêtes deux secondes, et puis là tu te rends compte qu'en fait il y a deux judokas qui sont en train d'avancer en faisant la roue, mais genre attraper l'un à l'autre, c'est genre un qui attrape les pieds de l'autre et ils tournent sur eux-mêmes. Et tu dis, mais qu'est-ce que je regarde?
T'as les sumo.
Oui, bah alors les sumo, ils font du catch.
C'est ça. T'as du très très grand n'importe quoi. D'ailleurs, à propos de très grand n'importe quoi, il y a aussi, parce qu'il y a deux histoires en parallèle, hein. Il y a effectivement l'histoire du roi de l'univers en moule bite qui a fait de la merde et qui te demande de réparer.
Et tu il n'est pas capable de gérer ses problèmes lui-même. Hein.
Voilà, tout à fait. Et tu as l'histoire de la famille japonaise qui part en vacances ou qui part voir le grand-père qui est astronaute.
L'histoire, c'est que la mère et ses enfants vont voir le père qui est astronaute. Et en fait, j'ai déjà spoilé la moitié de l'histoire en disant ça, donc je vais aller plus loin.
C'est ça. Et c'est ridicule parce que c'est fait avec des petites scénettes... Comment dire, on dirait des petites vignettes des années 50. Enfin, le truc est... Je sais pas.
Ah oui, ils ont vraiment des têtes de famille nucléaire américaine. Hein. Sur les pubs de la vaisselle et compagnie, ouais, c'est clairement cette tête-là. Hein.
C'est clair que c'est ça, sauf qu'ils sont japonais. Et puis ils font des nani. Et puis des trucs comme ça. Et t'es là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de regarder?
Ils ont des têtes cubiques.
C'est ça, tout est cubique. Alors que le reste du monde est normal.
Alors non, justement, le reste du monde est à peu près aussi cubique. Hein. Le jeu, quand tu regardes les graphismes, et je pense que les graphismes étaient comme ça d'époque, c'est vraiment des modèles low poly avec des aplats de couleurs extrêmement simples pour les textures, et ça marche du tonnerre. Mais ils sont tous des gueules carrées.
Mais je précise que c'était low poly même à l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il faut voir que pour de la PS2, on pouvait faire normalement beaucoup plus de trucs que ça.
Alors, en soi, je pense que c'est un choix aussi technique, parce que Y a quand même toute la notion de gérer en temps réel la taille de la boule qui grossit en temps réel, avec ce qui peut être à interagir avec ou non. Et parfois carrément changer le niveau en cours de route, puisque des fois t'as la boule qui grossit. Donc en fait la perspective va changer, tu vas avoir des niveaux différemment. En fait si tu regardes un petit peu en détail, tous les petits objets qu'ils avaient au sol, ils ont complètement disparu en fait. C'est quasiment une nouvelle map qu'ils ont sortie. Mais c'est fait de manière tellement subtile qu'à mon avis, le fait que le jeu ressemble à ça, c'est aussi pour simplifier ces transitions.
Tout à fait. Et on rappelle que c'est un jeu qui a été fait avec un tout petit budget. On parlera un tout petit peu du développement après. Je voudrais juste faire un tout petit point contrôle parce que ça me paraît intéressant. Parce que finalement, comment est-ce qu'on fait rouler sa boule?
Bah, c'est un twin stick shooter. Non, je déconne.
Bah, c'est presque ça, en vrai.
On utilise que deux sticks.
Je crois qu'on a très peu de contrôle finalement. C'est-à-dire qu'on a une touche pour charger, si je me rappelle bien, une touche pour sauter, mais qui fait le tout petit saut. Hein, c'est vraiment juste pour se débloquer finalement.
Ah, il y a une touche pour sauter.
Il me semble qu'il y a une touche pour sauter.
Quand t'appuies sur les sticks. Putain, je l'avais zappé. Elle m'aurait tellement aidé celle-là.
Alors ça sert très peu en fait. Ça sert vraiment quand tu t'es coincé dans un coin, tu vois. Où là, effectivement, ça peut être intéressant de se dégager.
Ouais,
ça
m'arrivait de temps en temps.
Voilà, et tu as, en fait, ça se contrôle effectivement avec deux sticks, mais comme un tank finalement, c'est-à-dire que tu fais avancer, soit tu pousses avec le bras gauche, donc tu fais avancer le stick gauche, soit tu pousses avec le bras droit, soit tu tires avec le bras gauche, soit tu tires avec le bras droit. Donc quand tu tires les deux sticks vers toi, bah tu recules, quand tu pousses les deux sticks vers l'avant, bah tu avances tout droit, et puis bah pour pouvoir tourner à gauche, eh bah, il faut tirer le stick de gauche vers soi et pousser le stick de droite de l'autre côté. Donc c'est très bizarre comme contrôle, mais finalement on s'y fait très très vite.
Ouais, c'est assez intuitif. C'est pas très compliqué parce que du coup il y a pas un milliard de boutons, donc je pense qu'on peut le mettre dans les mains de pas mal de monde. Et en vrai, c'est tellement un plaisir de rouler la boule. Alors, des fois c'est toujours un peu frustrant parce qu'on est bloqué. On est bloqué, c'est un peu du mal à se débloquer. Mais en fait c'est super plaisant à faire. Et il y a un vrai feeling arcade, je trouve. Franchement, ça aurait été un jeu d'arcade, j'aurais trouvé ça vraiment pas déconnant comme concept, d'avoir juste à faire la plus grosse boule en un temps limité et d'avoir un high score à la fin. Parce que vraiment, le jeu est simple à prendre en main, très fun, extrêmement visuel aussi, parce que forcément, la boule qui accumule des trucs, qui grossit et qui ramasse de plus en plus n'importe quoi au point que tu détruis la ville, bah franchement, c'est très fun. Et ouais, en fait, ça rend le jeu, je trouve, extrêmement attachant dès les premiers instants.
Tout à fait. Ça fait une accroche immédiate en fait. T'as pas de temps mort, t'as pas de temps de réflexion, t'as pas de choses comme ça. Finalement, c'est un gameplay hyper simple, hyper accessible.
Ouais, d'ailleurs, t'as 4 dialogues par niveau.
Ah oui, complètement.
Non, vraiment, tu rentres dans le jeu rapidement, c'est super plaisant.
Mais quand tu disais que il y a une espèce de racine arcade, faut voir que au niveau du développement, c'est peut-être pas complètement innocent cette histoire de score, de limite de temps, de gameplay très très arcade avec très peu de boutons dans lequel on rentre très très facilement. Parce que finalement, l'histoire du développement est un petit peu particulière. C'est une idée originale d'un monsieur qui s'appelle...
Comment ça a été développé, Katamari Damashi?
Alors, c'est une idée originale d'un monsieur qui s'appelle Keita Takahashi, qui a fait plein d'autres trucs un peu délirants derrière. Hein, il en était presque à son premier barbecue, mais voilà, il en a fait d'autres derrière des barbecues. Et donc, ça a été fait essentiellement par des étudiants, au départ. C'est-à-dire que, finalement, il a recruté à la Namco School parce qu'on lui filait pas tellement le budget pour faire son truc. Donc, il s'est démerdé avec des gens qui n'avaient que très peu d'expérience, c'est peut-être aussi pour ça que c'est assez peu optimisé. Et il y a surtout...
Pas tout à fait, puisqu'il a aussi réussi à recruter des gens de la division arcade de Namco qui était en train de mettre les clés sous la porte à l'époque.
Exactement, sur le milieu du développement, il a effectivement débauché des gens de la division arcade, deux ou trois développeurs qui... c'était ça ou la porte, en fait, donc bon.
Oui, ils ont eu de choisir.
Mais j'ai l'impression que ce côté très 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 arcade, il vient peut-être de là, en fait. Quand tu regardes un peu derrière, tu te dis... Ah, en fait, il a récupéré des gens dont c'était le métier de faire des expériences courtes, plaisantes, faciles à prendre en main, pas forcément faciles à maîtriser. Donc c'est...
Oui, et puis c'est quand même une culture d'entreprise, hein, rappelle que Namco, c'est Pac-Man. Hein.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le créateur de Pac-Man lui-même qui disait qu'en fait, il était très très fun, le jeu. Genre, c'était vraiment un modèle de ce qu'il fallait faire.
Ah oui, non, mais 100%. C'est une belle réussite, surtout, effectivement... Pour un jeu qui a été surtout composé par... Enfin, je dirais déjà Keita Takahashi, lui, c'est un artiste, c'est pas un game designer à la base.
Tout à fait.
Donc c'était aussi un novice en la matière. tout comme c'est les étudiants, quoi.
Tout à fait. Et donc oui, c'est intéressant de se dire que finalement, un jeu qui est fait par des, entre guillemets, des débutants, j'exagère un peu, t'es quand même des gens qui sont des artistes et autres, mais est une telle réussite d'un point de vue gameplay, a très bien marché, hein, d'ailleurs, pour Namco, avec un tout petit budget, puisque à l'époque, il représente à peine 10% du budget d'un jeu Namco standard, donc c'est vraiment un très 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 petit budget, vendu à petit prix. On en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un jeu qui a été vendu sur une idée originale, effectivement un jeu assez court, mais un quasi-jeu concept, même un jeu concept, on peut le dire. Mais c'est vrai que je trouve ça ultra intéressant de se dire que ça a été fait comme ça. Il y a une autre petite anecdote moi, qui m'a fait marrer, c'est que finalement le jeu a toujours été prévu pour PS2. Mais comme les kits de développement PS2 n'arrivaient pas tout de suite, les gars ont commencé à prototyper sur GameCube parce que là ils avaient le kit de développement qui était disponible.
Ouais, je crois qu'il y avait aussi une histoire de Nintendo avait aussi mieux documenté son kit de développement pour éviter de refaire ce qu'ils avaient fait sur 64 alors que Sony n'avait rien à foutre.
C'est ça. Donc en fait, on aurait dû avoir ce jeu sur GameCube, mais ça aurait été vraiment extrêmement plaisant, je pense, ça aurait bien collé à l'état d'esprit du Nintendo de l'époque, faire des expériences un peu barrées de ce genre-là.
L'univers fun et coloré sur GameCube, ça collait parfaitement. Hein.
C'est vrai que ça aurait bien collé, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. On aurait été très 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 bien. Bref, donc. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter, moi je pense qu'on a fait un bon tour, j'espère qu'on a donné envie aux gens d'y jouer, parce que ça vaut vraiment le coup.
Bah là on a surtout parlé du premier, donc effectivement il y a Wheel of Katamari qui est sorti ensuite, donc aussi sur PS2 à l'époque, et qui est disponible en version reroll. Ce qu'il faut savoir c'est qu'après Wheel of Katamari, Keite Takahashi, il a arrêté de bosser dessus, il s'est barré de chez Namco. D'ailleurs à la base il voulait pas faire le second, mais Namco lui a dit bah on le fera avec ou sans toi, il a fait bon bah je le fais.
On rappelle que sur le premier, il avait refusé de complexifier le jeu, c'est-à-dire que le Namco lui a passé son temps à lui demander ce serait bien de mettre une mécanique de ci, une mécanique de mi, et ainsi de suite, et le mec a refusé systématiquement, c'est-à-dire qu'il disait l'objectif c'est que ce soit fun et simple.
Et bah, il avait bien fait, parce qu'honnêtement, je pense que si on avait eu des mécaniques plus complexes, ça aurait peut-être pas été aussi prenant dès le début et aussi attachant.
C'est ça, je pense qu'il a eu l'instinct là-dessus. Voilà. Mais donc pour Wheel of Katamari, il y a 2-3 mécaniques en plus. Pas grand chose, hein. C'est vraiment une évolution assez, assez naturelle de ce qui se fait dans Katamari Damacy.
Et là, il y a Once Upon a Katamari qui est. En gros, alors je sais pas au niveau gameplay s'il y a beaucoup de changements, mais le concept c'est qu'on va aller faire rouler le Katamari à travers les époques.
Je pense que c'est suffisant, hein. Moi perso, tu me dis on va aller faire rouler le Katamari dans le Japon médiéval, je dis oui.
Je pense que je vais me le prendre, je vais pas faire Wheel of tout de suite. Ou peut-être que je le ferai plus tard, mais je vais peut-être me prendre Once Upon a Katamari assez prochainement et je ferai Wheel of à l'occasion d'une promo ou un truc comme ça, quoi. Histoire de pas non plus de me dégoûter de la série, parce que là j'ai franchement le jeu il est à 20 balles sur l'eShop, donc si vous êtes pas trop regardant sur le physique, prenez-le en démat, ça va vous allez jouer 5 heures, ça va vous faire une très bonne après-midi ou un très bon week-end, ça va vous donner la patate, et si ça vous plaît faites les autres. Mais vraiment, à 20€, le premier, vous saurez très vite si ça vous plaît ou pas. Hein.
Complètement. Puis en plus, alors c'est parfait pour un week-end pluvieux, tu vois. C'est vraiment... Tu passes un excellent moment.
Et il me semble qu'il y a un mode multijoueur, mais je ne l'ai pas testé.
Alors, j'ai souvenir, effectivement, d'un mode multijoueur.
Parce qu'il y a un menu pour le mode multi, avec les cousins du prince, mais je n'y ai pas joué.
Ouais, je suis pas sûr d'y avoir joué non plus. Tiens, c'est dommage. Faudrait que voilà, là on a un petit trou. Voilà, notre rétrospective est toute cassée.
Eh merde, va falloir on va faire un jeu de remix.
On va peut-être faire ça. Bref, je pense qu'on va conclure là parce que ça me paraît pas mal. On a dit tout ce qu'on voulait dire. Encore une fois, un jeu qui file la patate. De temps en temps, ça fait du bien. Surtout là avec l'hiver qui est déjà sur nous. Très pluvieux, bah, jouer à Katamari Damacy, il y a du soleil dans ta télé et ça fait plaisir.
Ouais, mettez la musique à fond.
Faut que les gens se posent la question.
Vraiment, le thème principal du jeu qui sert de musique au niveau final est tellement adapté à ce que tu y fais et à l'espèce de jouissance enfantine de rentrer dans ce dernier niveau en sachant comment tu vas le finir. Bah vraiment, il y avait vraiment une espèce de joie sur mon visage à ce moment-là, genre dire « Ah oui, c'est vraiment ça qu'il fallait pour finir le jeu, c'est parfait. » C'est très très bien pensé.
Je pense que c'est extrêmement bien pensé de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. Bref, nous on va se quitter ici, on se donne rendez-vous normalement la semaine prochaine en podcast, mais vous savez que ça a du retard. Sinon dans deux semaines, je ne sais pas de quoi on parlera dans deux semaines, peut-être qu'on profitera du retour de Mecton pour parler de Pokémon Legend Zeta, c'est possible. Je sais qu'on a un Kirby Air Riders, mais j'ai peur qu'on soit un tout petit peu en avance par rapport à notre planning.
Je pense que s'il sort le jeudi qui suit.
Il y a moyen, ouais. Il y aura eu la démo entre deux, donc on pourra peut-être quand même donner un premier avis sur le jeu, si c'est possible.
Il y a Hyrule Warriors qui sort cette semaine.
C'est tapé. Mais après, je sais pas si on aura grand-chose à en dire. Il va vraiment falloir qu'il soit très convaincant.
Ça sera vraiment l'opposé de Katamari Damacy en termes d'esprit, tu vois.
C'est pas du tout la même
chose. Katamari Damacy, c'est genre deux sticks, un truc à rouler sa boule, il n'y a pas d'ennemis, tu t'amuses. Et en même temps, c'est l'inverse, c'est des jauges partout, plein de personnages, plein d'ennemis, taper.
Et en même temps, on avait dit Pikmin. Mais Katamari Damacy. Hein. Katamari Damacy Musso.
Mais est-ce que finalement, c'est pas déjà un Musso? Dans le concept, manière, tu vois. Est-ce que finalement, au fondement, la quintessence des deux jeux n'est pas la même chose. T'as savoir rouler sur le plus de trucs possible.
C'est ça. Enfin, tu fais pas une grosse boule, mais...
Tu fais juste un gros tas.
Effectivement. Bon, allez, on se retrouve dans deux semaines. Bisous tout le monde. Ciao.
Salut.